Shalom, chers amis. Alors, on est parachat matot, d'accord? Maintenant, parachat matot, au début, c'est la paracha des nédarim. C'est les nédarim?
Des vœux.
Des vœux. C'est quoi un vœu?
Une décision à ne pas abolir.
Une décision à ne pas abolir. Non, toi, tu dis que le vœu, on ne peut pas l'annuler
comme ça.
À partir du moment où tu t'es engagé. Mais venons, regarde le vœu d'une autre façon. Allez, le vœu, en réalité, c'est qu'une parole. D'accord? Un homme, il s'engage en disant quelque chose.
Justement,
c'était qu'une parole.
Ça rend de la valeur à la parole. À l'époque, les hommes, ils avaient de la valeur dans leur...
Il a fait... Alors voilà, très bien. Un vœu, c'est ce qui va donner de la valeur à une parole. Ouais. On a l'impression que ce qui a une valeur, ce ne sont que des actes matériels. Ici, la Torah te dit, non, attention, il n'y a pas que les actes matériels qui ont une valeur, c'est aussi même les paroles. Et une parole, c'est complètement spirituel, en vérité. Tu vas me dire, ah, mais tu sors de la vapeur de ta bouche, tu sors un son, c'est une certaine matérialité. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le... La... Non, là, tu es trop profond pour nous. La cristallisation de la pensée. La parole est créatrice, très bien.
Mais pourtant, on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent.
Les paroles s'envolent, les écrits restent. T'as raison, complètement. Ça, c'est vrai. La parole... Elle a une. Alors, non, justement, ce que tu dis, c'est ça qui va donner moins, qui donne moins d'importance à une parole, qui semble donner moins d'importance à une parole. Et la Torah ici, elle vient insister, elle dit non, la parole c'est important, bien que c'est quelque chose qui est complètement spirituel, qui est complètement abstrait, quoi. On a l'impression que c'est rien du tout. Ça a une grande importance. Et on voit ici la Torah comment elle vous expliquer que quelqu'un qui a fait un vœu, qui s'est engagé avec la parole. Combien c'est difficile de comment on dit se rétracter. On dit le mot délier un vœu, ça se dit? Comment on a délié un vœu? Très compliqué. On voit que la parole que tu as dit, elle est très forte. Maintenant, alors il faut faire attention parce que comme on a dit, la parole est créatrice. Et c'est ce que dit un magicien. Quand le magicien, il fait un tour de magie, qu'est-ce qu'il dit comme parole? Abera kadabera, je vais créer comme je vais parler. Abera kadabera, abracadabra en français. Donc on voit que le magicien lui crée avec la parole. Bon, le magicien ne crée rien du tout. Maintenant regardez, il y a une Mishnah en Pirkei Avot, très intéressante. Perek Shlishi, Perek 3. Mishnah, bougez pas. Mishnah Tetvav ici, ramène. Mishnah 15. Alors, c'est pas partout qu'elle est Mishnah 15. Hein. Ici, elle est Mishnah 15. Mais je crois que c'est Mishnah 11. 11 ou 15, vous allez voir. En tout cas, nous dit ici, Rabbi Lazar Amodae Omer. Vous êtes prêts ou pas? Amechalel et Akodashim. Celui qui profane les choses saintes. Veamevase et Amoadot. Celui qui dénigre les Moadot. On va traduire pour faire simple les fêtes. D'accord? Les fêtes ou les demi-fêtes, les fêtes. Ve'amalbin penechavero, celui qui fait blanchir le visage de son voisin en public, ça veut dire celui qui fait honte à son ami. Ve'amefer berito shel Avraham Avinu, et celui qui inverse, qui annule la bride de Avraham Avinu. Vous savez qu'il y a la bride Mila, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il vient cacher la bride Mila. Alav Shalom, on va mieux la Shalom. Et celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas en accord avec la halakha. Alors tous ces gens-là, afalpi shiyesh biyado Torah ma'asim tovim, bien qu'il a dans ses mains de la Torah et des bonnes actions, il n'a pas le droit au monde futur. Alors la première question que je vous pose, c'est que la punition qu'on voit ici, elo chelek leolam baba, c'est très très violent. Il n'a pas le droit au monde futur. C'est très très violent. Regardez surtout qu'il y a marqué... Alors je ne vais pas répondre à cette question-là, mais juste vous expliquer la gravité de ces choses-là. Où il y a marqué... Amalbin penechavero berabim, celui qui fait honte à son prochain, en public, on dit... Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il le tue, parce qu'il lui fait du mal. Mais on a vu que quelqu'un qui a tué quelqu'un, il est chayav mita. Mais on ne dit pas il n'a pas le droit au monde futur. Ici, on dit autre chose. Celui qui fait de la peine à son prochain, Amalbin penechavero, celui qui fait de la honte à son prochain, il n'a pas le droit au monde futur. Donc on voit ici, les punitions, elles sont très très violentes. Alors c'est la question. Est-ce que c'est une punition ici? On parle d'une punition. Première question qu'on m'a posée. Deuxième question. Alors, chaque parole que Rabbi Lazar Modarer amène ici, elle demande à être expliquée une après l'autre. D'accord ? Chacun a un sens. Maintenant, moi, ce que je vais expliquer par rapport à notre paracha, c'est le lien qu'il y a entre toutes ces choses-là. Et c'est lié avec notre paracha. Alors, le lien, c'est que vous remarquerez que... Alors, on va les faire un par un, vous allez voir. Il y a marqué « Mechalel et à Kodashim ». Celui qui profane des choses saintes. Comment, par exemple, profaner une chose sainte? À l'époque du Beth Amikdash, je prenais une vache. Donc, cette vache-là que j'avais l'habitude de labourer avec, que j'avais destiné à manger, que j'ai le droit de manger. Je vais dire un jour, hey, cette vache-là, comment elle s'appelle? Rosalie? Marguerite? Marguerite? Marguerite Arezé Egdesh. Elle est sainte. La sanctifie. Ou bien je lui dis Arezé Khatat. Je ne sais pas si on dit Khatat sur une vache. On ne dit pas Khatat sur une vache. En tout cas, Arezé Ola, Arezé Shlamim, Arezé. Je la sanctifie, je la consacre à être ou bien sacrifiée, ou je la consacre au Beth Amikdash. Donc, le simple fait de dire une parole, ça va sanctifier cette vache. Cette vache, elle devient sainte. C'est pas qu'une vache, c'est n'importe quel objet. Je prenais mon stylo, je dis Arezé Ekdesh, cet objet-là devenait saint. Et je devais l'apporter au Beth Amikdash. Maintenant, si c'est une vache, alors les guisbars, les responsables du Beth Amikdash décident ou bien de la sacrifier, ou bien de la vendre et d'utiliser l'argent pour le Beth Amikdash. Si c'est un stylo, ben on ne peut pas la sacrifier sur le Beth Amikdash, sur le Misbéar. Alors, on le vendait. Peut-être qu'on pouvait l'utiliser au Beth Amikdash, je ne sais pas. Vous pouvez écrire là-bas, je ne sais pas. Il y avait pas. Les stylos n'existaient pas. Bon, mais j'ai toujours offert un objet que le Beth Amikdash a besoin. Je pense que oui, on peut l'utiliser. Ouais, je ne connais pas. Troisième temps, il y aura besoin d'acheter. En tout cas, cet objet devient saint. On le vendait et avec l'argent, qui devenait saint automatiquement, donc après qu'on l'ait vendu, on l'utilisait pour le Beth Amikdash. Donc, on voit le simple fait de voir dire quelque chose sur un objet, sur un animal, sur quoi que ce soit, ça le rendait saint. Donc, maintenant, quelqu'un qui va dénigrer ça, comment il va dénigrer? Il va dire, ah, quoi? Parce que j'ai dit que cette chose-là, elle est sainte. Alors, ça y est, elle devient interdite, elle devient sainte, elle devient, ah, c'est des bêtises, pas vrai. Et il va venir maintenant à profaner cette chose-là. Cette bête-là, il va continuer à la bourrer avec, ou bien il va la manger. Un homme qui fait ça transgresse un interdit de ce qu'on appelle Me'ila. Me'ila, c'est si tu as utilisé quelque chose de sainte. Alors, il y a tout un processus, comment on devait expier cet interdit-là. D'accord? Il y avait un knas, il y avait une amende, etc. Mais on voit que quoi? Que quelqu'un qui renie ça, qui vient maintenant, les halel, comment c'est quoi le mot qu'il dit lui? Amé halel, et à Kodashim. Il vient profaner, donc il vient rendre profane quelque chose de saint. Un homme comme ça, il n'a pas le roman de futur. Pourquoi? Parce qu'il renie la dimension spirituelle qu'une personne va donner un objet ou un animal par le biais de la parole. Tu renies ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que non, la parole n'a pas ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui a un pouvoir? Uniquement les choses matérielles, les choses physiques. D'accord? Je prends un animal, je le tue, je sais pas ce que je fais, là c'est un acte. Mais de dire sur un objet quelque chose, ça fait rien du tout. Ça, un autre acte là-bas. Le deuxième, on y va. Mevazé est un moradot, celui qui dénigre les moradot. Alors c'est quoi les moradot? Là-bas, les commentateurs, ils expliquent que c'est les demi-fêtes, c'est Chola Moed. Mais en réalité, l'idée, alors là-bas, ils expliquent pourquoi Dafka, on précise bien que c'est moradot, c'est Chola Moed, parce que c'est quelque chose qui est Minatora, mais qui a été transmis, les interdits ont été transmis au Rabbanan, Chachamim, eux ont décidé qu'est-ce qui serait interdit pendant les demi-fêtes. En tout cas, sans dire demi-fêtes, fêtes, on peut tout inclure ici, c'est celui qui vient maintenant dénigrer que le temps peut avoir une dimension spirituelle différente d'un autre temps. Le dimanche, qu'est-ce qu'il est? Il est rien. Le lundi, il est rien. Mardi, il est rien. Ah, le jour du Seigneur, dimanche. Hein. On a entendu, on sentait qu'il avait de le dire. Vient Shabbat, c'est déjà un jour saint. Shabbat, c'est complètement différent. Shabbat, on a une mitzvah de le sanctifier. C'est quoi sanctifier? On va faire le kiddush. Comment on fait le kiddush minatora? On s'arrêtait et on disait Shabbat mekudash. Le jour du Shabbat est saint. D'accord? On sanctifiait. On faisait quoi sanctifier? C'est faire une différence. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait dit cette parole-là, le Shabbat devenait saint. Aujourd'hui, Rabbanan, ils ont instauré, de faire le kiddush sur du vin. On prend un verre de kiddush et on va maintenant proclamer cette différence entre les jours chol, profane, et les jours saints. D'accord ? Maintenant, quelqu'un, il renie ça. Il renie ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Non ! Avec la parole, est-ce qu'on va rendre un temps qui est saint ? Est-ce que, même pas avec la parole, est-ce qu'il y a une dimension de sainteté dans le temps ? Il renie ça, il dit non, il n'y a pas. Tous les temps sont équivalents. C'est équivalent. D'accord ? Donc c'est la même chose. Amalbin pede chavero barabim. Celui qui va faire honte à son prochain, barabim. C'est aussi une même dimension. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il l'a frappé en public ? Est-ce qu'il l'a frappé ? Est-ce qu'il lui a mis un coup ? Est-ce qu'il l'a tué ? Pas du tout ! Qu'est-ce qu'il lui a simplement dit devant tout le monde que c'était un triple imbécile ? Ouais, je lui ai fait du mal, je n'ai rien fait. J'ai simplement sorti quelques mots de ma bouche. Et en plus, c'est la vérité. C'est un triple imbécile. D'accord ? Alors, un homme aussi, qu'est-ce qu'il dit ? Quel mal il y a à ça ? Quel mal il y a à ça ? Tant que je ne l'ai pas frappé, je ne lui ai pas fait du mal physiquement, on ne peut pas m'accuser. Viens ici, la Mishnah dit non. Si tu renies que la parole, ou même un acte, ce n'est pas forcément ici par la parole, hein. Tu peux te foutre du monde, tu fais une grimace, ou tu limites, ou tu fais ce que tu veux, et que ça va lui faire honte, même si ce n'est pas un acte concret, quand je dis concret, il dit concret, parce que c'est une parole, mais il n'est pas physique, alors aussi on voit que « en lo chelek lo lamaba ». C'est intéressant ça, parce qu'on voit que que la police, bon, on va pas rentrer dans les polémiques de la police, pas la police, mais en général, quand il y a, on est puni que quand il y a affrontement physique. Qu'il y a eu une bagarre, tu lui as mis un coup, il a mis un coup, il a pris un coup, alors là, il y a un truc. Mais ah, je l'ai insulté, il lui a dit un gros mot, il lui a dit une mauvaise parole. Alors là, on voit que on n'est pas forcément puni, on n'est pas accusé. Mais en réalité, les paroles, des fois, sont bien plus violentes que des coups. Il y a très souvent dans les batets d'inim, bon, même partout, ça doit exister dans le monde entier, où les gens ils viennent pour divorcer, alors ils disent le mari, il a frappé la femme, alors le mari, c'est toujours le méchant, pourquoi la femme n'a pas pu se défendre, tout ça. Mais moi, j'ai entendu dernièrement une histoire où l'avocat du mari, il disait, ouais, le mari, il a frappé la femme. Encore une fois, Razvichalom, je ne justifie rien du tout, hein, personne n'est bien ici. Mais il a voulu montrer aussi que la femme, elle avait des paroles très, très, très violentes envers son mari. Et l'avocat du mari, il a dit, et ça ne s'appelle pas de la violence, d'insulter, de maudire, de dire des gros mots, de se mettre en colère, de crier. Ça ne s'appelle pas de la violence, ça aussi, ça s'appelle de la violence. Alors lui, il lui a mis une claque, il lui a fait un bleu, elle lui a balancé des insultes, elle lui a fait pas un bleu, elle lui a fait des... C'est énorme. Encore une fois, ça peut être le contraire, d'accord, je ne... Pas d'histoire, hein, mais... Rien ne justifie les coups, mais c'est ce que la Mishnah, elle te dit ici, mais rien ne justifie les mots non plus. Les mots, ils font aussi mal que les coups. Les mots, ils font aussi mal que les coups. Alors tu vas me dire, t'as raison, quelqu'un, il a tué quelqu'un, ok, c'est un meurtre, l'homme, il va pas se relever. Mais parfois, quand on insulte quelqu'un ou quelqu'un se fait insulter, il peut être brisé. Vous êtes déjà fait vexer ? Quelqu'un vous a déjà vexé ? Violemment ? Vous savez, la marque dans le cœur que ça fait. Des fois, des gens sont traumatisés de ça. Moi, dernièrement, quelqu'un, il m'a humilié en public, quelque chose de très bidon, hein. Mais j'ai très, très mal pris. J'étais pas bien pendant 2-3 jours. J'étais blanc. J'étais pas bien pendant 3 jours. Ça m'a marqué gravement. Que Dieu le pardonne, celui qui m'a fait ça. Moi aussi, je lui pardonne. Pas que Dieu, c'est bon. Ensuite, à Mefer Brito chez l'Avram Avinu. La Brit Mila, c'est quoi? C'est un changement dans le corps. Quelle différence entre un juif et un non-juif? La Brit Mila. D'accord, alors il y a les chamas, vous allez me dire, mais au niveau du corps, c'est la Brit Mila. On a vu qu'il y a un personnage qui s'appelait, Mamré. Mamré, c'était un des amis de Avraham Avinu. Avraham Avinu a les 3 amis. Mamré va être récompensé. Pourquoi? C'est lui qui va donner à Avraham le conseil de faire la Brit Mila. Maintenant, on pose la question là-bas, est-ce qu'Avraham Avinu, il avait besoin qu'on lui demande, qu'on lui conseille de faire la Brit Mila? Hachem, il m'a dit de faire la Brit Mila, je fais la Brit Mila. Alors, Les Mefarchim, les commentateurs, ils parlent de ça. Mais quel conseil Mamré va lui donner que à ce... quel conseil qu'il va récompenser de ça? Alors, on a qui explique, très intéressant. Il dit que Mamré, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Quelle humilité? Avraham, il a dit à ses amis, écoutez, Dieu, Hachem, aujourd'hui, me demande de faire la Brit Mila. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être différent de vous, pas seulement par l'âme ou par la façon de vivre, d'être, mais par le corps. Moi, je vais avoir un corps différent de vous. Moi, je vais être circoncis. Les deux, Aner et Shkol, ils ont refusé de lui donner conseil. Ils n'ont pas voulu. Il a dit, pourquoi? On veut bien que tu sois un homme important, bien ce que tu veux, mais quoi que maintenant tu vas te différencier de nous dans le corps, ça, ils n'étaient pas prêts à accepter. Mamré, il a accepté. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu que moi, je sois inférieur à toi dans le corps, alors j'accepte. Et cette humilité-là, ça fait que Hachem va le récompenser, comme il est marqué là-bas dans la paracha. Maintenant, en réalité, la Brit Mila, c'est pas grand-chose. Oui ou non? Vous allez me dire, c'est sûr que ça fait mal, c'est sûr que machin, mais bon, quand on le fait à huit jours, c'est pas grand-chose. C'est un petit morceau de peau qu'on va couper. Maintenant, un homme pourrait se dire, il dit quoi? Parce qu'on lui a enlevé un petit morceau de peau, alors maintenant, cette personne, elle s'élève, elle devient différente de moi. Ironie. Donc en réalité, c'est la même idée. On voit que cet acte-là, qui est un acte complètement, rien du tout, un petit morceau de peau, ça va donner une dimension spirituelle à une personne, ça ironie. Et on voit que quelqu'un qui n'est pas circoncis chez nous, les Juifs, il y a beaucoup d'interdits. Il ne peut pas manger Corban Pessah, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. C'est grave de ne pas être converti, de ne pas être circoncis. La circoncision, c'est ma marque, la marque du Juif. Et donc, il vient renier cette marque, il vient renier la Brit Mila. Alors lui aussi, il n'a pas le droit au monde futur. Ensuite, à Megale Panim, Batorah Shelo Kalacha, celui qui dévoile des facettes de la Torah, qui ne sont pas en accord avec la Halacha. Les Rishonim, ils expliquent que cette Halacha-là, elle parle du côté, du Pshat. C'est quoi le Pshat? Quand la Torah nous dit, par exemple, de ne pas manger du cochon, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut manger du cochon. Alors, certains vont te dire, non, la Torah, c'est une philosophie, c'est une... Quand elle te dit de ne pas manger du cochon, mais non, c'est pas le cochon en soi, le cochon. Qu'est-ce qu'il a fait, le cochon? Pourquoi on a pas le manger? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Tu l'as vu dans Kermit, dans les Muppet Show. Elle était gentille, comment ça s'appelait?
Je sais pas.
Mais si. Mais si, c'est ton époque. Peggy! Hein? Peggy la cochonne. Elle était gentille pour d'abord la manger, elle est mignonne. Qu'est-ce qui t'a fait le cochon? Non, quand la Torah, elle t'a dit de ne pas manger du cochon, qu'est-ce que ça signifie? De ne pas te comporter comme un cochon, de ne pas... C'est une idée très spirituelle, d'accord? C'est une idée très, très vague. Viens ici, le Tana dit attention, celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas comme la Halakha, ça veut dire qu'il va, comme cet exemple-là, à l'intérieur du monde du cochon, il dit que ce n'est pas selon le pshat, alors lui, il n'a pas le roman de futur. Il y a, oui, un sens simple à toutes les choses. Lorsque la Torah nous dit de merder tefilin, de garder Shabbat, de manger kasher, il y a une ordonnance au niveau du pshat aussi. Et celui qui ne fait pas ça, il n'est pas appelé juif. Maintenant, c'est exactement le même principe. Un homme, il va se dire, pourquoi est-ce que ces actes-là, d'accord, est-ce qu'ils ont une dimension spirituelle différente? Parce que alors je j'allume pas la lumière Shabbat, alors je suis plus je sais pas quoi. Oui, c'est pas vrai. Ce qui est essentiel, c'est le comportement humain, c'est le yaras entre les hommes, c'est la philosophie, c'est le fait de comprendre la profondeur de la création. Non, là tu déformes la Torah. Toutes ces choses-là que tu dis, elles sont vraies. C'est vrai que dans la Torah, il y a beaucoup de profondeur et il faut aller les chercher, ces profondeurs. Mais il y a aussi un sens au niveau basique, d'accord, au niveau du pshat. Et c'est exactement la même idée. Quelqu'un, il vient maintenant renier les facettes simples de la Torah. Lui aussi, elle n'aurait que là. Maintenant, pour expliquer le dernier, parce que je ne m'étais pas très bien expliqué, il dit un homme qui ne mange pas de cochon, alors, bien sûr, ce n'est pas que ça qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse tout faire. Mais grâce à ça, il ira au Olam Haba. Quelqu'un qui mange du cochon, il n'ira pas au Olam Haba. Qu'est-ce que ça fait parce qu'il mange des cochons balava? Quel
pourtant, ne pas faire Shabbat, c'est plus grave que...
Oui, ça, c'est juste l'exemple que je te donne au niveau du pshat. Et c'est ce qu'on vient lui dire. Non, mon ami, c'est faux ce que tu dis. C'est vrai que tu t'es bien comporté durant toute ta vie. Tu as fait mille choses magnifiques. Tu as mangé du cochon. Pourquoi? Parce que tu as dénigré ici une facette de la Torah. Tu as refusé d'accorder une dimension spirituelle très élevée à un acte simple que la Torah t'a ordonné. C'est un peu le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Eh bien, Nechakelekulama, tu n'as pas le monde futur. Maintenant, quelqu'un qui a mangé du cochon parce qu'il ne savait pas, parce qu'il avait faim, parce que mille raisons, ça ne l'accorde pas. Mais ici, on parle par principe, qui refuse, qui va expliquer la façon de la Torah autrement. En tout cas, on voit le point commun de toutes ces choses-là, c'est exactement ce qu'on a dit, enfin, pas que, mais aussi, la force de la parole, la force du... Pas la force, pas le mot la force. C'est qu'il y a une dimension qui dépasse le côté matériel. D'accord? Il y a le côté matériel des choses, mais il y a aussi une dimension, un côté spirituel, comme on a vu ici. La parole, elle a une force créatrice. Elle a une dimension créative, une dimension spirituelle. Celui qui renie ça, celui qui croit que le fait de dire des mots, c'est rien du tout, il se trompe. Et preuve en est que Akash Borou, il a créé le monde. Comment il a créé le monde? Par la parole. D'accord? Il n'a pas pris des marteaux, il a commencé à construire, il a créé la parole. Donc on voit que la parole, elle a une dimension extraordinaire. Et que à la matérialité, il y a beaucoup de spiritualité qui s'accroche à ça. J'espère que vous avez compris le lien qu'on a fait. Maintenant, sachez que, un truc intéressant, il marche chez mots, pour finir avec lui, enfin, on a fini avec lui, Bessrat Hachem, mais que l'antithèse du judaïsme, c'est quoi qui va donner maintenant de l'importance à chaque parole, à chaque engagement? C'était quoi? C'est le nazisme. D'accord? Le nazisme et le judaïsme, c'est des choses qui se... Et que c'est connu que Hitler, alors il a dit cette phrase-là plusieurs fois, alors, je ne sais pas exactement dans comment il l'a dit, que lui, il n'en avait rien à faire des promesses. Il y a une phrase comme ça connue, je ne sais pas où j'ai vu écrit, où Hitler, il avait dit à quelqu'un, il dit, tu sais bien que j'en ai rien à faire des promesses. Que pour moi, les promesses, c'est rien du tout. Donc on voit l'antithèse de ces gens-là, que vous promettez tout, et moi, je ne donne rien. Non, c'est autre chose. Mais on voit que l'antithèse, c'est justement un peuple qui ne tient pas ses promesses, que pour lui, la parole, elle vaut rien. Allez, voyez ce qu'est, où est-ce qu'elle a... Bon, je ne dis pas que c'est la conséquence de ça, mais on aime bien leur refiler tout le mal. C'est eux qui ont fait tout le mal, en vérité. Juste pour ajouter une petite parole, donc selon ça, on comprend qu'est-ce que ça veut dire un ochlek l'olamaba. Il n'a pas le droit au monde futur. Pourquoi il n'a pas le monde futur? Si un homme, il renie toute la spiritualité, il croit qu'il n'y a pas une dimension spirituelle dans ses actes ou dans la vie, alors ce n'est pas une punition qu'il n'y a pas le droit au monde futur, c'est une conséquence. Comment toi, tu vas acquérir un monde spirituel, un monde futur spirituel, si tu renies tout le côté spirituel, toute la dimension spirituelle de la vie. Donc c'est, en réalité, donc c'est pas une punition, c'est une conséquence. Shabbat shalom.